Dans le cadre des élections municipales pour 2026 à Rambouillet, nous accueillons, alors déjà, bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Marc.
Philippe de Toutes les Nouvelles.
Gilles Schmitt.
Et puis nous accueillons bien sûr notre invité Gilles Schmitt pour la liste Agir pour Rambouillet. Bonjour.
Bonjour.
On va, lors de cet entretien, aborder plusieurs thématiques et on va commencer peut-être, Philippe, par une question qu'on a posée à tous les candidats. Il s'agit de la sécurité.
Oui, la sécurité. Rambouillet est considéré comme une ville calme. Dans le programme de Gilles Schmitt, j'ai remarqué que le candidat voulait accentuer cet aspect sécurité en augmentant notamment les effectifs de la police municipale. Pourquoi accentuer cette sécurité à Rambouillet?
Alors pourquoi l'accentuer? Tout d'abord, la ville de Rambouillet est calme, réputée comme telle, mais je pense que ce sont des sujets qu'il faut quand même préserver et il faut le maintenir. Quand on dit qu'on est une ville calme et qu'on fait partie des meilleurs, nous sommes quand même dans la moyenne. Moi, je pense que ce sont des sujets dans lesquels il vaut mieux être dans l'excellence. Donc, je préfère viser des villes comme Élancourt, comme Versailles, qui sont vraiment tout en haut. Mais pour préserver déjà notre environnement, il faut quand même aussi préparer l'avenir. Aujourd'hui, les missions de la police municipale s'arrêtent à partir de 21h de mémoire et n'ont pas lieu, je veux dire, le dimanche. Je parle tout simplement des patrouilles, je ne parle pas lors des manifestations festives le dimanche. Et j'ai pu aussi observer qu'à peu près en général, dans les villes qui sont plutôt dans le haut du panier, elles ont un ratio aux alentours d'un policier municipal pour à peu près 1000 habitants. Nous, on n'en est pas là. On a à peu près une vingtaine d'effectifs sur les 27 qui nous sembleraient intéressants d'avoir. Ce qui nous permettrait d'avoir une présence policière municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, c'est quand même un des sujets qui a préoccupé l'ensemble des Français durant ces élections municipales. Et souvent, on nous a mis en avant que Rambouillet était protégé. Oui, mais les choses évoluent très vite et moi, je veux qu'on continue à préserver. Donc, je ne veux pas être dans une position de réaction, mais plutôt d'anticipation. Donc, aujourd'hui, voilà, pendant, on préconise d'augmenter les effectifs. Et en plus, vous savez que l'Assemblée nationale, on est en train de réfléchir et en train de voter des lois pour pouvoir donner un peu plus, je veux dire, de prérogatives aux polices municipales, qui pourraient soulager considérablement les forces de police nationales. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut attribuer d'autres responsabilités à la police municipale, et bien quadriller, que ça soit à la fois des problèmes routiers, des problèmes de délinquance. On a eu vite un petit épisode sur Grousset, faisant en sorte que cet épisode de vente de drogue ne revienne pas. Donc là aussi, il faut anticiper. Je pense que d'une part, on peut élargir les missions de la police municipale et surtout faire en sorte que les Rambouillétains puissent avoir un interlocuteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je précise que les 6 ou 7 policiers municipaux qui seront fléchés d'une manière supplémentaire seront à effectif constant. Je ne recruterai pas, mais on verra au moment de départ à la retraite ou de re-engineering, de réorganisation, on fléchera. Il est hors de question d'avoir plus de salariés à la mairie.
C'est justement la question que je voulais vous poser parce que les Rambouillétains se rendent compte que les finances, le fait de ne pas augmenter les impôts, c'est une des préoccupations des Rambouillétains. Il y aura augmentation des effectifs, mais à effectif constant sur la globalité des effectifs des agents municipaux.
Tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'on en aura l'opportunité, on fléchera ces 7 postes sur la police municipale, mais effectif constant. Et je veux dire, comment on fait l'effectif constant? On identifie les départs à la retraite, donc on n'attend pas le départ, mais on l'anticipe. On anticipe les départs à la retraite, on fait du re-engineering permanent, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 6 mois, on voit, on remouline. Mais faire du re-engineering, parce que visiblement, peu de gens savent ce que c'est pas faire la même chose avec moins ou plus avec le même effectif, c'est faire autrement.
Et sur la sécurité, il y a la sécurité routière, parce que lors de ce mandat, tout le monde a été marqué par le décès d'une piétonne qui, un 26 novembre, a été renversée et décédée. Sur la sécurité routière, il y a des choses aussi à faire.
Alors, j'ai une pensée particulièrement émue, parce que la personne s'appelait Nathalie, je ne citerai pas son nom, ses parents sont des amis de la famille, et pour tout vous dire, j'ai joué au rugby avec son papa, donc effectivement, j'ai pris toute la dimension, je veux dire, qui a été dramatique de cet épisode-là. Aujourd'hui, je crois qu'on n'en a pas tiré pleinement les leçons. Aujourd'hui, il suffit de se promener de Rambouillet. Je vous invite de le faire aux alentours de 18h. C'est là, à mon avis, où la luminosité est la plus faible. Vous savez, ce qu'on appelle entre chien et loup, là, où c'est plus compliqué. Les passages piétons ne sont pas assez sécurisés. Et quand je dis sécurisés, c'est déjà pas assez éclairé. Ça, pour avoir fait le tour encore, quelques soirées, et en plus à tout particulièrement dans la rue Le Nôtre, il y en a deux qui sont en haut de la rue Le Nôtre, à la sortie du stade du Vieux-Moulin, et celui qui est près du pont, ne sont pas toujours éclairés comme ils devaient l'être. Donc tout le monde a été ému, on a fait des discours, mais à côté de ça, je veux dire, il n'y a pas eu la réponse qui aurait dû être, vu la dimension du drame. Je profiterai de ce triste épisode-là pour rappeler qu'à l'époque, avec l'ensemble de l'opposition, nous avons fait une pétition qui avait recueilli plus de 1000 signatures. Et on voulait simplement que le thème de cette pétition soit inscrite à l'ordre du jour, parce que c'est un sujet de sécurité. Et avant tout, avant d'être automobiliste, avant d'être cycliste, nous sommes tous, à tout âge, des piétons. Donc la moindre des choses de la part d'une mairie, c'est de s'assurer de la sécurité de l'ensemble de ses concitoyens et bien sûr des piétons. Donc ce soir-là, on a eu le refus de mettre ce thème-là à l'ordre du jour. Et je me souviens très bien, nous avons tous quitté le conseil municipal.
Une dernière question sur le volet sécurité. On voit lors des réunions le fait que vous disiez tolérance zéro par rapport aux incivilités à Rambouillet. De quelle manière ça va se concrétiser face aux incivilités ?
Tout à l'heure, on a un peu amorcé la réponse dans le sens où à partir du moment où on va augmenter les effectifs de police municipale, ils auront dans leur mission un plus de temps et on leur demandera d'avoir un regard tout particulier sur tous ces déchets, ces dépôts, déchets sauvages. Et j'ai pu aussi constater qu'il suffit de tourner pareil de Rambouillet autour des points de collecte. Des fois, ça se transforme en mini déchetterie. Donc, quand je dis tolérance zéro, c'est à partir du moment où une personne sera prise en flagrant délit de se séparer de ses déchets. Comme ça, il faut que la mesure soit dissuasive.
On va aborder dans quelques instants la question de la santé, mais les propos que vous venez de tenir nous permettent de faire la transition sur, par exemple, l'aménagement au niveau de circulation des piétons, des cyclistes et des voitures aux alentours de la gare. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour cet endroit de la ville ?
Je rappellerai qu'il y a 6 ans, nous avions promis un pôle gare extraordinaire et aujourd'hui, on en est toujours au même point. Ça fera partie des 7 projets sur les 8 qui n'ont pas été réalisés. Donc, ce que je propose, c'est déjà d'arrêter cette aberration, de remonter à la gare par la rue Lambert-Cardère, tout ça pour pouvoir retrouver après la rue Sadi-Carnot. Ça n'a aucun sens. Et on vient de perdre 6 ans. Donc la toute première mesure que je prendrai, c'est d'engager, bien sûr, un plan de circulation pour pouvoir, quand vous êtes au pont de la Louvière, tourner juste sur la droite et de remonter directement sur la rue Sadi-Carnot sans passer par le Palgar. Cela n'a aucun sens. Vous avez le matin 7 à 8 000 personnes qui prennent le train. Autant, bien sûr, qui rentrent le soir. En même temps, vous avez des arrivées de train, vous avez des arrivées de bus, vous avez les rues qui veulent retourner sur la rue Sadi-Carnot, ça n'a aucun sens. Donc moi je ne veux pas partir sur des grands projets pharaoniques, mais tout simplement d'engager tout de suite un plan de circulation, mais digne de ce nom, et avec la possibilité pour le pôle garde de reprendre la rue Sadi-Carnot directement, sans remonter sur la rue d'Embarcadère, qui, je le répète aujourd'hui, n'a aucun sens. Et en plus ça m'a rappelé à mon enfance, parce que quand j'étais plus jeune, je prenais la rue Sadi-Carnot dans ce sens.
On va passer à la question de la santé, c'est aussi un aspect qu'on a évoqué avec les autres listes, à savoir cabinet libéral et une maison de santé.
Je vous ai apporté tous les éléments de réponse de la manière la plus précise possible. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon cœur de métier. En 2020, j'ai alerté au travers de mon RAM, j'avais spécifié qu'il fallait déjà créer un centre de santé pour la raison toute simple, c'est qu'il y avait déjà un manque de médecins et il y avait des départs à la retraite. Donc, une fois de plus, nous venons de perdre 6 ans. Ce qui se passe actuellement, nous avons plus de 7000 rambolitains qui n'ont pas de médecin. Alors, je ne sais pas ce qu'il va falloir attendre pour pouvoir engager une dynamique. Aujourd'hui, il y a d'un côté, il faut tout salarier, de l'autre côté, il faudrait installer les libéraux. Mais le problème, c'est pas de savoir si c'est l'un ou l'autre, il faut les deux. C'est aussi simple que ça. Donc, un, il faut une maison de santé pour pouvoir avoir des médecins qui ont le statut de salarié. La vie est ainsi faite. À l'hôpital, j'ai beaucoup de mal à retrouver des médecins pour une raison toute simple. Pour un poste qui s'en va, je le remplace par 2 personnes et demie. Pourquoi ? Parce que les gens ne font plus du temps plein. Il y a beaucoup de mi-temps parce que c'est l'évolution, c'est la vie. Et les jeunes médecins qui préfèrent généralistes, qui veulent s'inscrire dans une dynamique locale, veulent faire dans un cadre de salarié pour avoir une vie différente de celle de leurs aînés. Maintenant, cela n'oppose en rien à aider des médecins généralistes en libéral. Les deux sont complémentaires. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est pas l'Union soviétique. On ne passe pas d'un système à un autre. On permet, dans les deux cas, d'accueillir des médecins, un en statut salarié, l'autre en libéral. Tout ça pourquoi ? Parce que le seul objectif, c'est de répondre au plus vite aux 7000 remboulitains qui n'ont pas de médecin. Maintenant, nous, dans notre campagne, pour l'avoir fait, on sera capable en 6 mois, je dis bien en 6 mois, de pouvoir ouvrir un centre médical. Et après, ce centre-là qu'on construira, il y en aura un autre qu'il faudra qu'on construise. Il faudra bien sûr qu'on réfléchisse sur le lieu d'implantation, mais en tout cas ça ne sera pas que des médecins, il faut mutualiser toutes les fonctions administratives, et puis des spécialités comme, je dirais, la diététique, des spécialités comme la rhumato, comme l'ophtalmo, enfin voilà, et un certain nombre de services que l'on doit même mutualiser. Et l'expérience m'amène à dire, quand vous êtes sur un territoire où la couverture de médecins référents est couverte, bah comme par hasard, on voit de plus en plus de spécialistes venir. Donc, c'est pas l'un, c'est pas l'eux, c'est Les deux.
On peut rebondir sur le thème de l'hôpital, parce que c'est tellement un thème central de cette campagne. Le maire actuel dit qu'un hôpital sera reconstruit sur l'emplacement de la Smart City, et vous, vous dites que pas forcément. Qu'en est-il pour vous de cette reconstruction d'un nouvel hôpital annoncé par la municipalité ?
Et puis, question complémentaire par rapport aux propos que vous avez tenus par rapport à l'implantation de médecins sur le territoire. Comment voyez-vous la collaboration entre ces structures qui existent et puis l'hôpital ?
À partir du moment où il manque des médecins, je veux dire, généralistes, il est bien évident que les patients vont à l'hôpital. Je peux dire, sans dire trop de bêtises, un patient sur deux n'a rien à faire aux urgences. Quand vous avez des journées à plus de 120 passages, vous imaginez s'il n'y avait que des urgences. Ça, c'est la première chose. La deuxième, évidemment, qu'il faut le faire en concertation avec l'hôpital. On ne peut pas mener un projet de cette envergure sans mettre dans la boucle les acteurs de la santé. Et l'hôpital en est un tout particulier. Alors moi aussi, je veux que les gens vivent longtemps. Je veux que les gens soient heureux et je veux que les gens soient beaux et riches. Voilà. Aujourd'hui, comment peut-on, en tant qu'élu responsable, expliquer qu'il y aura un hôpital quand on voit le nombre de ministres de la Santé qu'il y a eu ces dernières années, le nombre d'assemblées nationales, qu'on peut dire que l'avenir de 2027 est la plus incertaine de la 5e République. Personne n'est capable de parier ce qui va se passer en mars 2027. Et alors, on peut faire des incantations, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais déjà, moi, ce qui me concerne, le plan d'action est suivant. On renforce l'hôpital actuel et comment on le renforce ? Bien sûr, ça relève des compétences de l'État et pas de la mairie, mais déjà en lui mettant autour de lui une maison médicale qui permettra de répondre aux urgences. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de porter ce sujet, et je le dis bien, de porter ce sujet au niveau de l'agglo. Comment peut-on réunir les 36 communes autour de projets de mutualisation sans parler de l'hôpital ? Qu'est-ce qui structure un territoire ? Une gare, une sortie d'autoroute, mais aussi un hôpital ? Comment ne peut-on pas avoir un débat au niveau de l'agglo pour plusieurs choses ? Simplement pour analyser son implantation. Et aujourd'hui, on ne sort pas un hôpital du centre-ville pour le remettre dans un centre-ville. Ce n'a aucun sens. Le premier hôpital que j'ai implanté, c'était Étampes en 1991. Depuis, on se met plutôt sur des axes qui permettent effectivement d'arriver à l'hôpital le plus vite possible. Donc, le mettre sur Smart City quand les gens connaissent bien le flux de la rue de Clairefontaine, mais ça n'a aucun sens. D'un côté, vous tombez sur la rue Saint-Dicarnot avec un rond-point. De l'autre côté, vous avez le pont de la Mare aux Moutons. Mais ça n'a aucun sens. Ce qui fait sens, c'est de réunir les 36 communes.
Et peut-être au-delà de l'agglo aussi.
Oui, je veux dire, grosso modo, vous avez un patient sur deux qui n'est pas rembolitant. Un patient sur deux, voire même, je crois que c'est presque 60% qui ne sont pas rembolitants. Ça veut dire que, on s'appuie déjà sur les 36 communes, parce que quand un projet est signé en bas de la ligne avec 36 maires, tu sais, c'est quand même un peu plus structuré, on trouve un axe. Alors, est-ce que c'est vers le sud, un peu plus sur son champ, ou un peu plus vers le nord, vers le Perret ? Ça, je veux dire, l'étude doit nous démontrer. Mais c'est un projet que l'on doit porter au niveau de l'agglo, avec l'ensemble des maires du territoire. Vu qu'on a une partie sur Oudan, qui fait partie du cœur des villes, et l'autre partie sur Chevreuse, tous les hôpitaux qui sont en connexion avec celui de Rambouillet doivent être autour de la table, et tous les maires de l'agglo doivent participer au débat.
Selon vous, l'hôpital ne se fera pas à la Smart City, donc d'où l'avenir de la Smart City. Comment peut-on valoriser cette Smart City ? Quelle est votre vision sur le long terme ?
Parce que les entreprises qui y figurent, ils ont besoin d'avoir de la visibilité aussi.
La visibilité, elle est très claire. Alors Smart City, dans les années 50, 60, 70, c'était comme un fleuron. Il y avait 1200 salariés, je crois, à une époque, dans les années 70. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans la région, il y avait quasiment, je crois, de mémoire, un habitant sur 4 ou un habitant sur 5 qui avait travaillé à la radiotechnique. En plus, ça, j'ai un regard tout particulier. Ma maman, il y a travaillé à la chaîne quand j'étais tout jeune. Smart City, c'est une belle opportunité. Un site à peu près de mémoire sur 5 hectares, 260 personnes, 76 ou 80 entreprises et associations. Donc nous, le rôle de responsable, c'est de préserver l'emploi qui est sur Smart. Parce que au-delà de la dimension économique, il y a aussi une dimension environnementale qui est celle de pouvoir venir travailler à pied ou à vélo sur Smart. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, on peut dire, sans trop rentrer dans le détail, l'idée que je porte sur Smart City, il va trouver en 3 volets. Il faut que Smart devienne l'endroit où il est possible de travailler, l'endroit où il est possible de se former et l'endroit où il est possible de s'épanouir. Alors quand je dis s'épanouir, vous avez bien compris que c'est à la fois les arts, la musique, je veux dire l'expression de tout ce qui permet de 7 à 77 ans de pouvoir à la fois se réaliser, s'épanouir. Donc ce sont ces 3 pôles que nous allons mettre en place. En plus, ça sera une formidable opportunité de végétaliser, de faire un endroit où il fait bon vivre et ce qui permettra aussi au quartier, il faut imaginer ce quartier, que On peut venir de la Louvière, de Grenouvillé, du centre-ville. Enfin, il y a un tas de quartiers qui peuvent arriver à Smart à pied, à vélo. C'est quand même un endroit quand même fabuleux. Et moi, en tout cas, je militerai pour ne pas que ça devienne la Louvière bis, où on construise à tour de bras. Rambouillet a besoin d'un poumon d'oxygène, a besoin aussi d'emploi, mais peut-être différent et en complément de ce qui se passe sur la zone d'activité de l'agglo. Là, il y a vraiment des start-up installées, de la recherche, de la R&D, d'accueillir aussi des écoles, des stages. La première difficulté qu'ont les jeunes avec le monde du travail, c'est pas le job, c'est déjà le stage et la formation. J'ai deux filles à la maison, je vois toutes les difficultés qu'on a pu trouver un stage dans certaines entreprises. Donc déjà, c'est de préserver l'emploi actuel, je vous dis à peu près 260 salariés, de le développer, mais pas non plus n'importe quel emploi, l'emploi de recherche, d'attirer aussi des écoles, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place prépa, au-delà du bac plus 2, il faut partir, il y a quelques masters, enfin, on voit bien qu'il y a une demande. Il y a beaucoup de jeunes rambolitains qui montent encore à Paris pour faire des études complémentaires et supérieures, donc ça permettra aussi aux jeunes de pouvoir faire leur stage. Accessoirement, économiquement, quand un jeune est obligé d'aller à Paris, je peux vous donner le budget. Vous êtes minimum à 12 000 euros par an, tout frais confondu. C'est un chiffre que je maîtrise assez bien, celui-là. Et quand je dis 12 000, c'est la fourchette basse, vous avez bien compris. Et puis, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un besoin et une envie aussi de pouvoir s'épanouir, de pouvoir aussi à la fois pratiquer la musique, la danse, le dessin, l'art. Et une ville telle que la nôtre doit être en mesure de proposer ces espaces-là, ces espaces d'expression en complémentarité avec ce qui se passe et ce qui se passe bien avec l'usine à chapeau et en comparaison avec la lanterne qu'on verra aussi de fond en comble. J'aimerais, si vous me permettez, revenir simplement sur un plan santé. Mes détracteurs me disent effectivement, sur un plan santé, que la maison médicale va coûter de l'argent aux contribuables rambolitains. Pas tant que ça, parce que quand c'est bien géré, voilà, bon, il faut déjà savoir gérer, on peut avoir l'ambition d'atteindre l'équilibre. Par contre, au passage, ce qui m'étonne, c'est que le 1,4 million de déficit chaque année de la lanterne, pour des spectacles certes de qualité, mais auquel il est extrêmement difficile d'avoir des places, ça gêne personne. Donc moi, j'ai fait mon choix. S'il y a un déficit, eh ben, je l'assumerai, parce que c'est un choix politique, c'est pour la santé. Et puis la culture, eh ben, on gérera ça autrement.
Et même au niveau de la santé, ça peut permettre, dans une politique volontariste que vous évoquez, eh ben, de créer des emplois. Et j'en reviens justement à l'aspect économique. Vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé de Smart City, des zones d'activité, mais il y a aussi le commerce en ville, en centre-ville. Ça aussi, c'est créateur de richesses.
Bien sûr, c'est créateur de richesses. Je ne dis pas que l'équipe sortante n'a pas fait. Hein. Je crois qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Mais aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet. Alors déjà, c'est la définition du centre-ville. Par rapport au commerce, le centre-ville, il ne peut pas s'arrêter et commencer qu'à la rue du Général de Gaulle. Pour nous, le centre-ville, il faut y inclure la rue Chale et ne surtout pas oublier la rue Patenôte, qui est quand même en déficit de com, de revalorisation. Donc il faut qu'on prenne la thématique des commerces du centre-ville, des activités du centre-ville, rue Patenôte, rue Chale et rue du Général de Gaulle. Première chose, si les Rambolitains, bien sûr, nous font confiance, c'est de rencontrer le président de l'association des commerçants pour aborder un sujet sur lequel on tourne autour depuis 20 ans, c'est l'aménagement de la rue. Aujourd'hui, elle est parfaitement inadaptée. Le revêtement au sol, dès qu'il pleut, c'est une patinoire. En tout cas, il n'est pas adapté. Donc, c'est d'avoir un vrai projet en trois tranches. Tranche la rue Patenôte, la rue Chale et la rue du De Gaulle pour, je veux dire, redéfinir les commerces de centre-ville. Mais quand je dis redéfinir, c'est-à-dire effectivement redéfinir son aménagement. Alors, bien sûr, c'est une ville historique qui est contrainte, on va pas passer en double fil, mais il y a quand même des choses à faire, déjà sur le revêtement du sol et l'aménagement. Et sans trahir le secret, mais pour avoir rencontré, en tout cas échangé déjà avec beaucoup de commerçants, et ils en sont, je veux dire, tout à fait favorables. La deuxième chose, c'est aussi le parking. Alors, le parking, ça, c'est le monstre du Loch Ness, on en parle. Donc, nous, pour envoyer un message très fort, parce que ça aussi, ça a été, je veux dire, question que nous ont posée les Rambolitains, qu'allez-vous faire pour le stationnement? On va passer de 30 minutes à 1 heure pour éviter que les gens aient l'angoisse du PV. Et le samedi, il faut envoyer un message fort. Mais je dis bien le samedi, pour des raisons que tout le monde a compris. Le samedi, c'est simplement le jour de marché. Donc le samedi, il y aura 3 heures de gratuité. Ces 3 heures-là et l'autre demi-heure gratuite, elles ont été quantifiées, elles ont été chiffrées. Nous, on veut lancer un électrochoc pour que les gens retrouvent le chemin du centre-ville. Et on proposera de sanctuariser une partie du parking qui se trouve en face du lycée pour réserver aux commerçants et à leurs collaborateurs des places à un prix défiant toute concurrence. Parce que là aussi, il faut envoyer un message dans les deux sens. L'autre partie, c'est bien sûr faire pression sur les baux qui sont, je veux dire, vacants. Il faut y aller, il faut prendre ses responsabilités. Par expérience, voyageons beaucoup sur le territoire français, on aperçoit que les villes qui fonctionnent bien, les rues commerçantes qui fonctionnent bien, ce sont là où on trouve des commerces de bouche, boucher, poissonnier, chocolatier, et de qualité. Il faut qu'on tienne vers le pôle d'excellence, donc on a de très bons commerçants, la plupart font bien leur job, ça, le sujet n'est pas là. Mais il faut renvoyer un message fort pour que les Rambolitains et les gens de l'agglo, hein, parce que le samedi matin qu'on distribue sur notre acte, le nombre de personnes qui disent « je suis du Perret, je suis de Cernay, je suis de ceci, je suis de ça », Parce que le contexte, vous le connaissez très bien. Vous avez deux pôles d'attractivité qui sont d'un côté Carrefour, avec tout le côté hors saumon, hors fin, qui est capté par là-haut. Et de l'autre côté, vous avez tout le côté cerné, tout ce côté-là, qui est capté par Leclerc. Et nous, on est une cuvette. Alors déjà, un, c'est difficile d'accès en voiture. Deux, les passages piétons sont pas sécurisés. Trois, les pistes cyclables sont pas continues. Et vous vous faites allumer, excusez-moi le terme, j'étais un peu trivial. Je veux dire, dès que vous avez passé 30 minutes, alors on va sécuriser les piétons. On va faire en sorte que les gens puissent venir aussi à vélo, parce que ça aussi, ça nous intéresse. D'abord pour le bien-être de tout le monde, pour la planète, et puis aussi pour permettre d'accéder au centre-ville. Et puis pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, leur proposer qu'on sache qu'on peut se garer, je veux dire, 3 heures le samedi à Rambouillet pour faire ses courses tranquillement.
On va passer, Philippe, à la question de la vie associative et la vie sportive.
La vie sportive, lors des réunions auxquelles j'ai assisté, j'ai vu que, en tant que candidat, vous insistiez beaucoup sur une politique sportive, mais sur le long terme, à la fois pour une réorganisation des installations sportives et aussi, à la fois, aussi une mutualisation avec les villages alentours, les terrains qui existent un peu partout. Quelle est votre vision sur le long terme de l'organisation du sport ?
Je crois que tout le monde a bien compris l'intérêt de la pratique du sport pour un tas de raisons, sur un plan d'abord physique, d'équilibre social. Mais je commencerai mon propos déjà par saluer les 350 associations qu'il y a sur Rambouillet et par le dynamisme, grâce à tous les bénévoles, ce dynamisme qui font que la ville a quand même pas mal d'opportunités. Concernant le côté associatif purement sportif, aujourd'hui, on s'aperçoit que les installations n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Tout à l'heure, avec une once d'humour, je disais que mon papa avait fait son premier match de rugby en 1964, en présence de Martin Micheline, Tom Patnaut, les vestiaires étaient les mêmes et la tribune, je crois, qui était du même côté. Donc là, il faut que l'on se pose en trois temps. Le premier, effectivement, c'est de faire un bilan sur savoir si notre accompagnement à ces associations sportives est à la hauteur. Si on veut qu'elles se développent, si on veut qu'elles accueillent, je veux dire, un peu plus de jeunes, il faut qu'elles puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avoir des éducateurs formés, d'avoir des moyens financiers pour pouvoir se déplacer et des infrastructures, je veux dire, de qualité pour pouvoir les accueillir. Ça, c'est une chose. Ça veut dire aussi que aujourd'hui, on a des mêmes activités qui se pratiquent sur différents sites. L'autre point, c'est que les installations sportives, c'est celles qui représentent certainement un nombre, je veux dire, important d'hectares d'occupation au sol. Donc, il y a aussi un intérêt à y réfléchir pour à la fois mutualiser certains sports. Tout le monde aura bien compris. Le football, aujourd'hui, a une taille critique qui permettrait quasiment d'avoir un pôle rien qu'à lui. On voit bien aussi que les sports de combat mériteraient aujourd'hui, avec leur dynamisme et le nombre de combattants, d'avoir un dojo. Et que le rugby soit plutôt autour d'un pôle rugby avec des sports de plein air. Voilà. C'est-à-dire que c'est une réflexion, bien sûr, que je ne mènerai pas seul. C'est que, là, une fois de plus, si les Rambouillétains, je veux dire, nous font confiance, on réunira lors d'une assise des sports l'ensemble des sections pour leur proposer qu'on engage cette réflexion. Mais il est bien évident que c'est une réflexion que l'on mène sur plusieurs mandats. Ce n'est pas une réflexion qu'on fait sur un mandat. Ça peut être sur 2 ou 3 mandats. Ça veut dire quoi ? À la fois, on trouve des infrastructures de qualité, mais on intègre aussi la dimension distance, transport, pas très loin des scolaires bien sûr, mais aussi on redéfinit, je veux dire, le visage de Rambouillet, parce qu'aujourd'hui, quand le stade du Vieux-Moulin était implanté dans les années 40 ou 50, c'était pas Rambouillet d'aujourd'hui, quoi. C'était pas le même. Donc on se doit, en tant qu'élu, on se doit de regarder ce que sera Rambouillet en 2050, je veux dire, il faut l'intégrer, que ça soit de Vivonne, que ça soit Stade Vieux-Moulin, que ça soit le Racinet. C'est-à-dire que comment on repense la ville, et vu la taille et la superficie des installations sportives, on se doit, je veux dire, d'y réfléchir et de leur apporter, comment dirais-je, le cadre nécessaire. Je pense que quand on voit, par exemple, toute la difficulté d'accéder au stade du Vieux-Moulin, quand vous allez au stade, il suffit de prendre la peine d'aller au stade. Le jour où il y a le football et le rugby, je veux dire qu'il y a un match, bah c'est simple, on ne peut pas se garer. Et vous avez tous les gens de l'étendeur qui m'attendent, en ce qui me concerne des fois, en me disant, vous avez vu, monsieur Schmitt, les gens sont garés dans mon garage, on ne peut plus circuler. La logique voudrait qu'on puisse accéder, je veux dire, au stade, à vélo, dans la plus grande des sécurités. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais on a une partie de la solution déjà. Il y a une partie où on pourrait très bien imaginer, vu qu'on a le parking de la piscine qui est quasiment vide le dimanche, avec une entrée du côté, je veux dire, tennis, on pourrait là aussi, à moindre coût, faire en sorte de diviser ces flux-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au stade, entre 17h et 19h, après bien sûr, ce sont plutôt les adultes qui viennent pratiquer leur sport, mais là, il y a un flux massif, je veux dire, de jeunes qui viennent en vélo, mobylette, les parents qui déposent en voiture. C'est à la fois repenser les infrastructures, mais l'accès aussi aux infrastructures, et faisons en sorte aussi que ces infrastructures soient accessibles le plus rapidement possible aux scolaires et en toute sécurité, mais aussi accessibles aux jeunes du quartier plus longtemps dans le temps. Aujourd'hui, vous rendez compte, il y a des quartiers où le stade est fermé, je veux dire, à 20h, où le gamin, il va jouer devant son immeuble, où il va jouer, je veux dire, en bas de chez lui, parce qu'il ne peut pas, je veux dire, accéder au stade. Donc à la fois, il faut repenser l'implantation, la qualité des structures et repenser aussi l'accès à ces mêmes infrastructures.
Et l'aspect aussi intercommunal qui me semblait intéressant, mutualiser aussi les équipements avec les villages aux alentours.
Alors, je suis tout à fait d'accord dans le sens où, pour bien connaître aussi l'agglo, j'ai pu observer qu'il y avait certains stades, enfin dans différents villages, qui existaient et qui, je veux dire, étaient inoccupés. Donc là aussi, il faut absolument qu'on engage une réflexion pour faire l'état des lieux. Il y a un inventaire de toutes les infrastructures sportives, parce que sincèrement, avant d'en reconstruire ou avant, je veux dire, d'agrandir sur Rambouillet, là aussi, on peut imaginer que les communes jouent le jeu, l'ensemble des communes jouent le jeu et mettent à disposition tantôt un terrain de football, tantôt un terrain de rugby ou un vestiaire pour pouvoir, je veux dire, mutualiser. Ça permettra d'abord d'avoir de la vie dans le village, ça permettra aux jeunes du village de pouvoir accéder à un sport, quel qu'il soit, mais avant d'engager, je veux dire, une construction d'un nouveau terrain, c'est déjà de faire l'inventaire de l'ensemble des infrastructures sportives. Et bien sûr, les maires qui voudront jouer le jeu, sachant que ce n'est pas une compétence de sport à l'agglo, mais on pourrait très bien mailler et mettre à disposition ces infrastructures qui sont d'un côté coûteuses par le chauffage et l'entretien et sous-exploitées.
Très bien, on arrive au terme de cet entretien. On va vous laisser quelques minutes pour le mot de la fin, comme on dit.
D'abord, il y a une formidable opportunité de changer de système le 15 mars en votant bien sûr pour la liste Agir Rambouillet que je porte à bout de bras puis avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi ? Aujourd'hui, sur Rambouillet, on a vraiment un enjeu de circulation sur lequel on n'est pas à la hauteur. Il y a un enjeu de santé sur lequel on n'est pas à la hauteur, on a perdu du temps avec cet hôpital, ce pseudo-hôpital qu'on n'aura peut-être, à mon avis, même jamais. Rambouillet a un formidable capital, un capital en ruine mentale, un capital, je dirais, historique, mais qui, à notre sens, n'est pas exploité à sa juste valeur. Donc on veut revenir à une méthode, je veux dire, qui sera frappé du bon sens, c'est déjà dans un premier temps, respecter déjà ses engagements. Respecter les engagements, ce qui n'a pas été toujours le cas ces dernières années, et d'aborder les sujets d'une manière, je veux dire, sereine, mais de les aborder. Les aborder sur les sujets de la santé. Voilà. Donc, nous, on s'engage à créer cette maison de santé et d'être bien sûr un partenaire privilégié de l'hôpital. Mais tout ce que l'on vous dit, c'est vraiment de faire en sorte que les 7000 Rambouillétains qui sont sans médecin référent aient d'ici la fin du mandat un médecin. C'est aussi de repenser la culture. Aujourd'hui, je suis désolé de voir le Nickelodeon complètement abandonné dans le quartier de la Louvière où il ne se passe plus rien, hein, pauvre quartier. Donc là aussi, c'est de prendre, je veux dire, à ce sujet-là, bras-le-corps. De faire en sorte que Smart City ne devienne pas, je veux dire, une multitude d'immeubles. Non, il faut qu'absolument que Smart City soit, je veux dire, un poumon économique, un poumon, je veux dire, où on se réalise, où on peut travailler, où et on peut se former. On s'engage aussi à revoir, il n'est pas normal de rencontrer toutes les difficultés quand on est à La Clairière pour se rendre en cœur de ville, je veux dire les vendredis soirs ou les samedis, il faut vraiment qu'on repense ces plans de circulation. Donc bien sûr, j'ai envie d'être maire pour apporter tout ça au Rambouillet, mais aussi pour préparer l'avenir, parce qu'on ne peut plus raisonner de mandat après mandat. Moi, ce que je veux engager avec l'équipe, c'est des projets structurants à 2-3 mandats qui font que quelle est la question en responsabilité qu'on doit avoir. Ce n'est pas qu'est-ce que Rambouillet à la fin du mandat, mais qu'est-ce que Rambouillet en 2040, 2050. Parce que quelque part, si on veut aussi être attractif, si on veut attirer des jeunes, c'est quand même les jeunes l'avenir quand même, il faut quand même apporter des solutions. Et en plus, nous avons des outils comme l'Internet, il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de pouvoir repenser la ville, des outils qui n'existaient pas dans les années 80. Donc tout ça, ça doit nous permettre de ça, puis d'associer un peu plus. Moi, j'oublie pas qu'en 2020, 6000 Rambouillétains se sont exprimés, soit 11000 ne se sont pas exprimés. 11000 ne sont pas exprimés. Donc nous, ce que je souhaite, c'est vraiment d'associer plus souvent les Rambouillétains aux décisions, à la vie de la cité, je veux dire, aux décisions de la ville, et tout particulièrement un truc. c'est déjà de permettre de s'appuyer sur les quartiers, parce que quand on parle de Rambouillet, il y a différents Rambouillets. Le Rambouillet de Grousset, c'est pas celui de la Clairière et c'est pas celui du centre-ville. Donc de faire en sorte que les habitants du quartier puissent élire leurs propres représentants, que ces représentants étant élus, ils ont mandat, donc ils ont vocation à les représenter, avec bien sûr un local pour pouvoir accueillir et pouvoir, comment dirais-je, assurer leur mandat dans les meilleures conditions possibles, et d'arrêter avec cette supercherie des budgets participatifs au niveau de la ville. Je rappelle qu'ils représentent 5 euros par an, voilà, 5 euros par an et par habitant. Autant dire, c'est une vaste blague. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est que les budgets participatifs soient au niveau du quartier. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui vit dans le même quartier, elle a sait mieux que quiconque s'il faut un toboggan, s'il faut un aménagement, s'il faut un arbre, ou transformer la dalle de béton en pelouse, ou la pelouse en béton, qu'importe. Eux savent, ils vivent. Donc, et ça permettra aussi d'avoir, de pouvoir constater très rapidement et d'évaluer l'efficacité, de notre politique. Donc d'associer les Rambouillétains au plus près dans la décision et de les consulter le plus souvent possible dans la ville de Rambouillet. Voilà toutes ces bonnes raisons pourquoi j'ai envie d'être maire de Rambouillet dans quelques semaines.
Merci Gilles Schmitt. Je rappelle à nos auditeurs que vous présentez la liste Agir pour Rambouillet. Donc merci également à Philippe Cohen de toutes les nouvelles.
Merci Jean-Marc.
Au revoir.